20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 22 novembre 1978. La France succombe au film Les Bronzés qui ringardise les comédies à papa. Nous sommes le 22 novembre 1978. En attendant Christine devant le cinéma, Patrick fredonne en boucle You're the One That I Want d'Olivia Newton-John et de John Travolta, la bande originale du film Grease, sorti un mois et demi plus tôt. Christine, elle sort du métro. Elle est jolie avec son pantalon pâte d'eff taille haute, son sous-pull aubergine et son petit blouson en moumoute. Elle a le jeu rouge car il commence à faire sacrément froid. Et oui, en 1978, il y avait encore des saisons, ma bonne dame. Ce soir, trois nouveaux films sont à l'affiche. Une histoire simple de Claude Sauté avec Romy Schneider qui raconte les difficultés de l'émancipation d'une femme de la moyenne bourgeoisie. Un mariage de Robert Altman qui dure près de 3 heures. Et Les Bronzés, une comédie de Patrice Lecomte dont l'affiche donne un sacré coup de soleil à l'heure des gros frimas. Oh, le choix est vite fait pour Christine et Patrick. Place à la légèreté et à la rigolade, bonne recette pour un premier encart. Collés l'un contre l'autre dans la salle obscure, Christine glisse sa main dans le pot de pop-corn que Patrick prend soin de tenir entre eux. Générique. En Côte d'Ivoire, Gigi, Bernard, Jean-Claude, Jérôme et Christiane arrivent dans un village de vacances où les bungalows portent des noms de coquillages et les touristes un collier de perles qui sert à payer les cocktails. Pour le confort de tous, il y a Popeye, le chef des sports, un gros dragueur que rien n'arrête, et les animateurs Bobo et Bourseau. Ici, on partage tout, les chambres, les activités et même les partenaires sexuels. Une formidable caricature du Club Med, un concept de vacances qui fait alors fureur, avec des géos lourdingues, sa chanson érigée en hymne, ses jeux délicieusement pathétiques, ses maillots de bain poutre apparente. Bref, tout y est, et même si le trait est gras, il est absolument irrésistible. Ah, il faut dire que les scénaristes sont des experts. C'est la troupe du Splendide, dont les 4 membres fondateurs s'appellent Gérard Jugnot, Christian Clavier, Michel Blanc et Thierry Lhermitte, des copains de lycée. Très vite, ils sont rejoints par Marianne Chazelle, Valérie Mérès, Josiane Balasco, Dominique Lavanant et Bruno Moineau. Et tous se sont produits au Club Med. Là, d'ailleurs, ils ont récolté moult situations et anecdotes qui ont nourri leur créativité. Ils en ont fait une pièce de théâtre à Paris en 1977 intitulée « Amour, coquillages et crustacés ». Le film « Les Bronzés » en est l'adaptation cinématographique. À la réalisation, un jeune homme, Patrice Lecomte, qui venait de faire un film au succès confidentiel. Les WC étaient fermés de l'intérieur. C'est lui qui remporte tous les suffrages de la troupe du Splendide, qui le préfère à Édouard Molinaro ou encore Claude Zidi. C'est lui qui signera tous les bronzés qui suivront. Et c'est lui qui nous raconte aujourd'hui ce film culte qui a bousculé les codes et provoqué notre hilarité sans jamais nous lasser. Ah oui, au fait, on ne sait pas si Patrick et Christine ont conclu ce 22 novembre 1978, mais ce dont on est sûr, c'est qu'ils sont ressortis morts de rire du cinéma. Bonsoir à tous, bienvenue à Galaswinda, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL ou en podcast. Nous sommes le 22 novembre 1978, jour de la sortie d'un film réalisé par un jeune inconnu mettant en scène une troupe de jeunes inconnus, son titre « Les Bronzés ». À cette époque, Valéry Giscard d'Estaing est président de la République. France 2 s'appelle Antenne 2 et Michel Sardou se balade en tête des hit-parades avec En chantant. À cette époque, la femme s'émancipe aussi car la contraception n'est légale que depuis 10 ans et l'IVG depuis 3 ans seulement. Et puis à cette époque, le maître de l'humour au cinéma, c'est Louis de Funès. Alors un film comme Les Bronzés, à l'époque, eh bien ça fait l'effet d'un grand tourbillon. Jour J vous emmène ce soir en Côte d'Ivoire, où il fait beau, où il fait chaud, où l'on s'amuse et où l'on couche tous ensemble. Patrice Lecomte, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vrai qu'on couchait tous ensemble en Côte d'Ivoire?
Enfin, c'est ce qui se raconte. Mais entre ce qui se raconte et la réalité, il y a parfois... une marge.
Ben oui, c'est le principe évidemment de ce film et de la caricature. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le réalisateur, je le disais, des Bronzés. Une sacrée troupe hein, quand même que celle du Splendide. On a retrouvé un extrait d'une interview de promotion du film qui nous a fait marrer. Écoutez.
En fait, c'est un film de cinéma et même les... si tu n'en prends en dehors... ça n'est pas un film de café-théâtre, c'est-à-dire au centre...
Il bafouille.
Non,
essaye d'aligner des trucs parce que c'est dur en
cours. C'est un film drôle, c'est un film à thèse.
C'est épouvantable, vous ne laissez pas parler. Vous fichez l'interview en l'air.
C'est un film drôle.
Moi, si vous faisiez ce que vous lui faites,
moi, je suis pour.
Ça, c'est épouvantable.
C'est un film drôle.
Il est
incapable.
Vous écoutez cet extrait, vous me dites c'est affreux, pourquoi ?
Oui, mais parce que je ne suis pas devenu beaucoup plus malin aujourd'hui, mais au moins j'arrive à m'exprimer à peu près correctement. Et à cette époque-là, je cherchais mes mots, je disais n'importe quoi.
Non, mais attendez.
Et là encore, on a du bol parce qu'il n'y a que le son. Mais si vous voyez l'image, c'est une catastrophe.
On a vu l'image, mais moi, ce que j'ai surtout vu, c'est un réalisateur qui se fait chambrer par sa troupe, quoi. J'ai l'impression, oui, en fait, qu'il y avait une sorte d'état d'esprit dans la troupe des Splendides.
Ils sont très chambreurs, même entre eux.
Ouais.
Les vannes fusent un peu de tous les côtés. Et c'est vrai que moi, j'étais pas... Enfin, je les aime beaucoup. On était ensemble, c'était joyeux, ensoleillé, palmier. Tout était parfait. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être de leur côté qu'en face, parce qu'ils chambrent beaucoup.
Oui, oui, et ça se sent dans cette archive, mais on a le sentiment qu'ils vous chambrent gentiment aussi.
Ils ont bon fond.
Et ils ont bon fond, ces petits-là. Mais dites-moi, en fait, ils vous ont imposé, Patrice Lecomte.
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient vu ce premier film, Les WC de fermé l'intérieur, qui n'avait pas été un succès au box-office.
Bah, j'ai dit un succès confidentiel, vous l'aurez remarqué.
Oui, confidentiel, le mot est juste et élégant en tout cas. Et eux, ils avaient bien aimé ce film-là parce qu'il y avait un état d'esprit. Et quand un producteur, Yves Serroir, qui est l'oncle de Christian Clavier, leur a proposé d'adapter Amour, coquillage et crustacé pour que ça devienne Ébronzé,
ouais.
Ils ont dit, mais on va le faire avec Patrice. Et Yves Serroir a dit, mais non, on le connaît pas, il a rien fait, son premier film a été un bide. Et Yves Serroir a essayé de faire admettre un réalisateur plus chevronné.
Mm-hmm.
Effectivement, Claude Zidi, Edouard Molinaro, Stanley Kubrick, enfin que sais-je, non. Stanley Kubrick n'a pas été contacté, je crois. Et eux, ils ont été vraiment parfaits parce qu'ils se sont dit, non, on veut le faire avec Patrice parce qu'on est de la même génération, on rit des mêmes choses. Et si on le fait avec Patrice, on fera le film ensemble. Ce sera notre film.
Ouais.
Ils craignaient, je ne sais pas si la crainte était fondée ou pas.
Que ça leur échappe. Jamais.
Ils craignaient d'être un peu dépossédés de leur truc. Alors ouais. Que là, effectivement, on a fait le film et tous les Bronzés qu'on suivit, enfin, il n'y en a que deux qu'on suivit, on a fait le film vraiment ensemble. Quoi. C'est ça qui était bien.
À quoi, selon vous, tient le succès du film ? Parce que je le disais en introduction, on était quand même dans une France encore corsetée. L'humour au cinéma, c'était plus les mimiques, aussi inimitables soient-elles et magnifiques soient-elles de Louis de Funès. On a l'impression, en fait, que les Bronzés, ça a été une sorte de révolution de l'humour au cinéma. Vous en aviez conscience ou pas ?
Je ne sais pas si... On n'en avait pas conscience, c'est-à-dire qu'on n'était pas goguenard. On n'a pas fait le film dans l'esprit. Vous allez voir ce que vous allez voir. On va mettre tous les anciens au rancard et au placard. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 78, les films étaient... Il y avait quand même du comique troupier. Il y avait des films... Il y avait des bidasses en folie. Il y avait des...
Mais c'était gentillet, quoi.
Oui, enfin, ça fonctionnait. Puis ça faisait des entrées. Les films de Gérard Oury sont pas des navets, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y avait un esprit café théâtre. Quand on a transposé ça au cinéma, des tas de réalisateurs chevronnés se sont retrouvés un petit peu vieillis, poussiéreux, parce que nous, on faisait souffler, mais sans prétention, sans rouler des mécaniques, on faisait souffler un vent un peu plus jeune dans le cou, enfin plus marrant. Quoi.
Ouais, libre, plus moderne, le sexe n'est pas traité de la même façon, et alors il y en a partout quand même dans les Bronzés, c'est ça qui est marrant. Agatha Swindar, on partage tout justement, et même la sexualité, écoutez.
Mais Bernard, qu'est-ce qu'il te prend là ? Je croyais qu'on était juste là en copain.
Non t'inquiète pas, Gigi, c'est uniquement sexuel.
Gigi, t'es là ?
N'entre pas !
Et pourquoi, t'es avec qui ?
Elle est avec un copain.
On ne parlait pas de sexe comme ça au cinéma.
Non, mais c'est pas impossible que ce film-là,
ouais,
qui était envisageable en 78, la preuve, on l'a fait. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on pourrait faire pareil.
Alors justement, on va écouter un nouvel extrait qui m'a marqué. Écoutez Jérôme, alias Christian Clavier, qui fait son marché.
Et la Shintok, la petite hôtesse, elle est maquée ?
Ouais, elle est avec moi.
Et sa copine, la frisée ?
Elle est maquillée assise avec moi.
Ah bon ? Bon, moi, j'attaque l'infirmière.
Ah non, dis, elle est avec moi.
Ah bon ? Excuse-moi, vieux, hein, autant pour moi.
Non, mais ça, Patrice Lecomte, aujourd'hui au cinéma, vous l'imaginez ? On pourrait pas.
De même, quand Popeye, Thierry Lhermitte, fait discrètement monter sur une grande bascule
On y reviendra sur une balance.
Les filles qui ont été ses partenaires, et qu'il fait le compte et qu'il dit « Putain, cette saison, je suis tapé 1850 kilos de gonzesses. » Ça, ça nous fait marrer, mais aujourd'hui, on ne peut plus écrire ça.
Mais voilà, donc c'est vrai que quand on regarde ce film qui date de 1978, on a presque l'impression qu'il reste encore moderne. Vous voyez ce que je veux dire dans la société d'aujourd'hui.
Et qu'il,
est tout rancier.
Il reste culotté, en tout cas, oui. Mais on ne s'en rendait pas bien compte. Franchement, il y avait de notre part une forme d'insouciance, d'inconscience peut-être, mais d'insouciance, enfin de légèreté. Ça nous semblait normal de dire ces trucs-là. C'était horrible, mais ça nous semblait normal.
Bah, une légèreté et une insouciance qui a payé, évidemment, et ça nous fait toujours du bien de revoir ce film. On se retrouve dans un instant pour poursuivre notre Jour J tous ensemble avec Patrice Lecomte. On a plein d'archives, vous allez voir, on va passer un bon moment. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui vous fait voyager dans le temps. Ce soir, on file en 1978. Et si, comme moi, vous étiez bien jeune ou pas encore né, vous connaissez forcément le film dont on parle. Je pense qu'il fait partie des premières comédies que l'on montre à nos enfants quand ils sont en âge de le voir. Ce film, ce sont Les Bronzés. Patrice Lecomte, vous êtes notre invité. Vous êtes le réalisateur des Bronzés. C'est vrai, j'y ai repensé. Moi, c'est une des premières comédies que j'ai montrées à mes enfants.
Justement, à vos enfants, mais ils avaient quel âge?
Je pense qu'ils étaient. Alors, je dis qu'ils étaient en âge de le voir. Je sais pas, ils avaient 10-11 ans. Je sais pas. Enfin, mais j'en ai aucune idée en fait, parce que c'est un film, Les Bronzés, qui mélange tout.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas un film qui est. Enfin, c'était pas notre idée, notre volonté. C'est pas du tout un film qui fonctionne sur la provocation, quelle qu'elle soit.
Non, et pourtant.
Non, c'est pas un film qui se charge de braver les interdits. Non, on était. Sans blague, on était assez. Assez naïf, quoi.
C'est super mignon. C'est super mignon. Les Bronzés sont des personnages qui sont caricaturaux, on est d'accord.
Voilà. Oui. Enfin, on qu'on peut mettre la caricature, mais ils sont assez réalistes aussi.
Alors justement, est-ce que vous pensez que le succès du film, c'est que tout à coup, les gens ont regardé un film au cinéma avec des gens qui leur ressemblaient?
C'est pas impossible, mais quand on essaye de décortiquer, d'analyser le succès des Bronzés qui a traversé génération et génération, il y a quand même des gamins qui connaissent les Bronzés par cœur et qui n'étaient même pas au stade de l'échographie quand on a tourné. Donc c'est inouï. Alors pourquoi est-ce que ce film traverse les générations? Comment est-ce qu'on a fait notre compte pour faire un film inusable, enfin des films inusables? Je sais pas.
Alors ça tient très certainement au personnage. Voici un petit florilège avec Bernard Gigy, Jean-Claude Duss, Jérôme, Nathalie et compagnie.
Salut Jérôme.
Salut.
Vous amenez le soleil?
Vous amenez le soleil.
Si t'as le moindre pépin, je suis médecin. Enfin, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Merci.
Jean-Claude Duss de Paris. Non, je suis embêté, j'ai pas retrouvé ma valise.
Qu'est-ce qui se passe? Vous repartez déjà?
Non, mais monsieur, j'ai pas retrouvé ma case hier soir.
Moi non plus, j'ai pas retrouvé ma femme.
Moi, j'ai pas retrouvé ma valise, moi.
J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante au sanitaire.
Je précise que je peux être charmante ailleurs qu'au sanitaire.
Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme malheur?
Rien, moi ça va. Gigi ravie.
Bonjour. Jean-Claude Duss de Paris.
Bonjour. Je vous ai amené le soleil dans les bagages.
Ah, oui, heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Non, c'est parce qu'elle a dit « je vous ai amené le soleil dans les bagages », comme j'ai paumé mes bagages.
Ah ouais, c'est drôle.
Non, mais même quand on entend ça encore aujourd'hui, on est hilar dans le studio, parce que derrière les personnages, il y a aussi des personnalités. Il y a Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Dominique Lavanant, toute la troupe du Splendide. Comment est-ce que vous les avez rencontrés?
Je les ai rencontrés en étant spectateur au Splendide. Je suis allé voir leur spectacle, leur pièce, et ça m'enchantait. J'ai vu l'Amour, coquillage et crustacé, j'ai dû le voir 7-8 fois. Au Splendide, c'était facile, on était assis à 1m50 des acteurs, on pouvait devenir copains assez facilement, ils n'étaient pas vedettes, et donc ça se passait normalement, quoi, spontanément. Et puis, encore une fois, ils avaient eu le bon goût, ou le mauvais goût, ça je ne sais pas, d'aimer mon premier film, donc on s'entendait bien.
Comment les personnages ont-ils été créés? Parce qu'on l'entend là, à travers les voix, à travers les répliques. Tout de suite, les personnages sont campés. On sait que Jean-Claude Duss est un loser, on sait que Gigi est une charmeuse.
Mais les personnages, je ne sais pas comment ils les ont inventés. Je sais certains trucs, mais les personnages existaient avant que j'arrive, puisque la pièce, ils l'ont écrite ensemble. L'adaptation, on l'a écrite nous ensemble. Mais les personnages existaient. Ce qui se passe au Splendide, c'est que c'est pas un colcause, mais c'est une écriture collective et chacun prend en charge son propre personnage.
C'est ça.
Donc, Jean-Claude Duss est devenu un loser, un dragueur qui arrive à rien, quoi, qui prend que des pelles et des râteaux, surtout. Mais c'était la volonté, sans doute, de Michel Blanc de faire un Jean-Claude Duss comme ça, de camper ce Jean-Claude Duss et que Popeye soit hableur. Plus tard, pardon pour le mot, et c'est comme ça qu'il l'a envisagé. Mais ce qui est bien, je trouve, c'est que au-delà de la caricature, personne ne se prend au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est vraiment merveilleux et inattaquable, il y a une puissance d'autodérision chez eux tous de jouer des personnages dont ils savent se moquer aussi, qui fait qu'ils ne peuvent pas être antipathiques, si odieux soient-ils parfois.
Vous qui les avez bien connus, qui les connaissez bien, est-ce que vous les avez retrouvés tous quelque part un petit peu dans leur personnage ? Puisqu'ils avaient chacun la charge de leur personnage. Alors, est-ce qu'il y a un peu de Jean-Claude Duss dans Michel Blanc ?
Ce qui est vrai, c'est qu'ils se connaissent bien, ils connaissent leurs qualités, ils connaissent leurs défauts, donc ils sont capables de se moquer d'eux-mêmes très facilement. Et forcément, aucun d'entre eux ne joue le contraire de ce qu'il est dans la vie, bien sûr.
Et c'est ce qui rend les personnages hyper crédibles.
Oui, alors je connaissais par exemple beaucoup mieux, parce que j'ai fait plusieurs films avec lui, Michel Blanc. Michel Blanc n'est pas le loser professionnel qu'il est quand il fait Jean-Claude Duss, du tout, non. Mais il y a un peu de ça quand même.
Alors, c'est marrant parce qu'on a fait une sorte de sondage. Nous, notre personnage préféré, c'est Jean-Claude Duss. On a une tendresse particulière, rien ne l'arrête et surtout pas le ridicule, souvenez-vous.
Salut, t'es tout seul, elle est où ta femme ?
Mais je sais pas où elle est, ma femme !
Tu sais que ça va beaucoup mieux, moi. Je commence à m'habituer au soleil, à l'organisation, tout. J'ai bouffé avec les Allemands. Ils sont vachement sympas, ces mecs-là. C'est marrant parce que moi, je parle pas du tout leur langue. J'ai passé une soirée formidable. Ils m'ont chanté des chants de la guerre à quatre voix, il y a un courant qui est passé. Et puis j'ai eu des regards avec une nana. À mon avis, il y aura des ouvertures. Là.
Ah oui, tu penses à ma femme ?
Non, pourquoi elle pense à moi, ta femme ? Le mec qui gonfle. Eh, dis donc, parce qu'éventuellement, il y aurait des ouvertures avec ta femme.
Non mais pardon, mais alors ça
mais
veut
vous
dire
vous excusez pas de rire, Flavie.
Ah non mais c'est tellement, moi je suis pas la seule dans le studio, mais ah, le mec qui gaffe, c'est tellement drôle. Est-ce que sur cette scène par exemple, Michel Blanc a travaillé avec Gérard Jugnot, parce qu'ici ils campaient chacun leur personnage, ça veut dire qu'ils se retrouvaient quand il s'agissait d'écrire les dialogues.
Ils écrivent tous ensemble, mais chacun prend en charge son propre personnage. Les dialogues de Jean-Claude Duss sont écrits par Michel Blanc. Alors il y a ça se mélange aussi, bien sûr, mais chacun prend vraiment en charge son propre personnage.
Bon, allez, on va se retrouver dans un instant, on va parler du scénario, parce que c'est ce que je disais en introduction de cette émission, c'est qu'effectivement, pour si bien parler du club de vacances, évidemment, la troupe du Splendide avait éprouvé le club de vacances, et notamment le Club Med qui faisait fureur à l'époque. On se retrouve dans un instant dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Le film Les Bronzés dont nous parlons ce soir avec son réalisateur Patrice Lecomte est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui s'est jouée à guichet fermé en 77 à Paris. Son titre, Amour, coquillages et crustacés. Le succès du film, on le doit aussi à des gags irrésistibles et des répliques désormais cultes. Patrice Lecomte, la troupe du Splendide, je le disais il y a un instant, s'est produite au Club Med, un formidable laboratoire, comme nous l'explique Marianne Chazelle.
On avait trouvé un plan super pour avoir des vacances gratis, et comme on n'avait pas de sous du tout à l'époque, c'était d'aller au Club Méditerranée, où ils ont, vous savez, ils invitent des gens pour faire des spectacles, et nous on faisait nos sketchs, et en échange on avait une semaine de vacances, gratos.
Et on a trop envie de faire partie du Splendide, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je comprends.
C'était le bon plan, quoi.
Ben, c'était un bon plan, mais enfin, ça a servi à plein de gens qui sont
d'artistes, de comédiens, qui
faisaient leurs premières armes au Club Med, et c'était très bien. C'était Lydie Trigano qui s'occupait des spectacles club, qui allait repérer à Paris des gens qui, dans les cafés théâtres, avaient du talent, peut-être que, etc. Et c'est là, en participant à des spectacles, en créant leurs sketchs, en testant leurs sketchs au club, c'est là qu'ils ont pris des notes, ouais, sur les gens qui les entouraient et qui ont remarqué des trucs et qui ont fini par faire ce scénario, enfin cette pièce.
Alors, il y a des choses qui nous paraissent complètement dingues dans le film, qui existaient dans la réalité. On écoute Michel Blanc qui nous explique la recette des Bronzés.
Les personnages, ils n'ont pas été tirés de la vie réelle, ils ont été tirés de notre imagination. Mais ce qui leur arrive, pour 80%, c'est des choses qu'on nous avait racontées, qu'on a vues. Par exemple, les géos qui font monter les filles sur les balances pour savoir combien elles pèsent et qui notent le poids. Et à la fin de la saison, ils disent, pardonnez l'expression, mais moi j'ai baisé pour 850 kilos de gonzesses. C'est vrai.
Alors évidemment, on ne résiste pas. Voici l'extrait en question, bien misogyne comme on ne pourrait plus l'entendre aujourd'hui.
Oh putain, je me suis niqué 3827 kilos de gonzesses. Je me dégoûte des fois, tu sais. Et toi, t'en as à combien ?
125, moi.
T'as mon vieux petit maître, hein ?
Attention, une seule fois.
D'accord.
scène atroce et en même temps absolument hilarante.
Oui, oui, c'est ça qui est fou, c'est que c'est à la fois très drôle et très répréhensible.
Alors, mais comment réagit le Club Med, puisque vous avez tourné là-bas dans... Parce que quelque part, c'est une formidable pub pour les clubs de vacances.
Alors, pour les clubs de vacances, enfin, nous, c'était le Club Med, hein, vraiment, mais on n'a pas tourné dans un Club Med, évidemment. Ouais. Ben non, bien sûr que non. D'autant plus que le club dans lequel on a tourné, qui était un ancien Club Med en Côte d'Ivoire, donc avec toutes les infrastructures du Club Med, on n'a pas empêché le club de vacances dans lequel on tournait de fonctionner. Donc, il y avait des vacanciers, des gens qui étaient là pour une semaine.
Et comment ils ont réagi alors à la sortie du film?
C'est plutôt marrant parce qu'ils étaient dans un film. Donc ça a fait une activité de plus. En plus de la voile, du ski nautique et de ce qu'on voudra, il y avait atelier cinéma un peu.
Ouais.
Alors ce qui était assez marrant, c'est qu'on demandait aux gens, c'était affreux, on demandait aux gens qui étaient là aux vacanciers, voulez-vous faire de la figuration? Vous allez être dans un film, ta-ta-ta, etc. Mais ils faisaient la figuration non payée. Alors la production avait organisé une tombola.
Ouais.
Donc ils prenaient des tickets avant de tourner la séquence. Et un jour, je me suis rendu compte qu'elle était, enfin le premier jour d'ailleurs, je me suis rendu compte quels étaient les lots.
Et c'était quoi ?
Deux raquettes de ping-pong.
Une
ensemble.
C'est vrai ?
Oui, un peignoir, une serviette éponge. Donc on a eu beaucoup de mal la deuxième nuit à avoir autant de figurants.
Oui, bah ça j'imagine. Bah, oui. Et alors attendez, ça veut dire quand même que tous les figurants du film, ce sont des vrais vacanciers ?
Oui.
Donc ça veut dire que la scène, par exemple, du yoga avec Gigi, là, où les gens sur la plage et tout, ce sont des vacanciers.
Les gens sur la plage, oui, oui. Alors le producteur avait dit, mais il faut qu'on soit sûr d'avoir des jolies filles disponibles. Pas du tout pour le moral des troupes, encore que. Mais donc il avait fait engager six filles qui ont passé tout le tournage en Côte d'Ivoire. Je crois qu'elles n'étaient pas payées, mais elles étaient là. Quand on a vu une jolie fille à mettre quelque part, on prenait une d'elles.
D'accord, ok.
C'était pas mal, c'était un bon plan pour les filles, parce qu'elles pouvaient se dorer la pilule. Elles ont eu six semaines de vacances en Côte d'Ivoire.
Mais quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, le scénario, il était déjà ficelé ? Tout était prêt, ou c'était un peu à la one again ?
Non, non, pas du tout. Le Splendid, ils sont comme ils sont, mais ils sont très professionnels. Et les films, tant mieux si ça ne se voit pas, mais les films ne sont pas improvisés du tout. Tout est super écrit, à la moindre virgule.
D'accord.
Et personne n'est là en train de folâtrer, à inventer des dialogues de dernière minute. Non, non, c'est vachement écrit.
Est-ce que ça a été difficile de sortir de l'ambiance café-théâtre pour justement faire un film de cinéma ?
Non, sincèrement, au contraire, parce qu'au café-théâtre, faire un club méditerranéen sur une scène qui fait 4 mètres carrés, c'est quand même très compliqué pour faire des départs en ski nautique et des choses comme ça. Pour imaginer une plage, la mer, les palmiers, les spectacles, enfin bon, c'est le cinéma offrait d'un seul coup la possibilité de faire la même chose, en plus réaliste en tout cas.
Est-ce que vous vous êtes départi, puisque moi je n'ai pas vu la pièce de théâtre, est-ce que vous êtes départi de la pièce de théâtre pour écrire un scénar complètement différent ? Ou est-ce que c'est véritablement une adaptation ?
C'est une adaptation de la pièce de théâtre, mais là où on a gagné un temps fou pour écrire, c'est que les personnages existaient.
Ouais.
Donc on n'a pas eu besoin d'inventer Jean-Claude Duss, Bernard Nathalie, pas du tout, ils existaient. Donc on a étoffé un peu, on a organisé tout ça, mais la scène, vous en parliez, la scène du karaté, elle est dans le spectacle, hein, vraiment. Et...
C'est du karaté, voilà. Moi je parle de yoga parce que
c'est karaté.
J'ai retranscrit ça en 2021. Aujourd'hui, les femmes ne font plus de karaté, elles font du yoga. Vous voyez ce que je veux dire ?
Par exemple, je ne fais ni l'un ni l'autre, je ne peux pas vous départager.
On va se retrouver dans un instant, parce que vous avez commencé à nous parler justement du tournage. On va filer en Côte d'Ivoire. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit, le film Les Bronzés est une œuvre culte qui a fait presque 2,5 millions d'entrées en 78. C'était énorme, hein, Patrice Lecomte.
Oui, alors que
vous vous attendiez à
curieusement,
un tel succès
là, vous parlez en anciennes entrées.
Oui, alors racontez-nous.
Aujourd'hui, il faudrait retirer de zéro, c'est comme les nouveaux francs. Et en fait, faire 2 millions d'entrées, c'était bien. Aujourd'hui, c'est Christel Roederer, Angé Robam.
Mais on aimerait bien.
Au moins. Ouais. Mais à l'époque, faire 2 millions d'entrées, je ne dis pas qu'on était déçus, mais c'était bien. Voilà.
Voilà, c'était honorable.
Oui, les films, ils faisaient vachement plus que ça. Quoi.
Donc en fait, ça a fait un carton sur le long terme, c'est ça ?
Après, effectivement, quand ça passe. Des dizaines, je crois que l'un comme l'autre, le Bronzé 1 et les Bronzés font du ski, ils ont dû passer 18 fois à la télévision en alternance. Enfin bon, c'est inouï, quoi. Et là, ça fait encore aujourd'hui, et allez comprendre pourquoi, ça fait des scores de dingo.
Mais bien sûr. Enfin, nous, on comprend, hein.
Oui, oui, mais c'est quand même curieux. Alors, c'est vrai qu'il y a des nouvelles générations qui ne les connaissent pas, donc qui vont regarder les films. Et surtout, je pense à un truc. Parce qu'il y a quand même plein de gens qui ne connaissent les Bronzés que à la télévision, et qui, évidemment, étaient trop jeunes quand le film est sorti. Donc, ils n'ont pas vu, et c'est forcément un petit peu dommage, mais on n'y peut rien, qu'ils n'ont pas vu les Bronzés dans une salle pleine de gens qui se gondolent. Parce que c'est vraiment joyeux.
Oui, oui, c'est vrai.
Et alors, je pense que même si les gens connaissent ces films par cœur, même s'ils ont le DVD, même ça, le fait de le regarder assis sur un canapé et de penser qu'un peu partout en France, à la même seconde, des gens se marrent des mêmes plaisanteries, ça crée une espèce de public virtuel, ou de communion virtuelle qui fait que demain, on pourra en parler à la machine à café au bureau.
Mais c'est très vrai ce que vous dites, c'est comme l'heure des grands matchs de foot, quoi, ou de ces grands événements qui font qu'à un moment donné, il y a peu de films, je dirais, qui réunissent comme ça toute la famille et dont on sait que notre voisin va regarder le même. Franchement, c'est rare.
Oui, il n'y en a pas des tonnes, mais si on parle du Splendide, il y a quand même Le Père Noël est une ordure, il y a Papy fait de la Résistance, et puis il y a les films de Gérard Houry, Le Corneau, la Grande Vadrouille, tout ça, c'est des films qui sont très, très fédérateurs, comme on dit.
Voilà, et qui sont irrésistibles. Le tournage, vous nous en parliez il y a un instant, comment vous l'avez abordé? Vous étiez dans un état d'esprit aussi naïf et quelque part, dire désinvolte, mais voilà, racontez-nous.
Non, j'ai fait semblant d'être désinvolte, mais à l'intérieur, j'étais noué et tendu comme une arbalète.
Racontez-nous.
Mais
alors,
pour plusieurs raisons, c'est que, mon premier film, 3 ans auparavant, avait été un bide, donc je n'avais pas le droit de me tromper une deuxième fois. Deux, je me rendais bien compte de la chance que j'avais de faire ce film. Mais trois, et ça c'était un peu plus singulier, c'est que je n'avais jamais mis les pieds au Club Méditerranée et que je ne l'ai pas dit. Parce que je me suis dit, si jamais je dis à mes amis du Splendide, mais le club je ne connais pas, je vais être viré, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Enfin, sans doute ils ne l'auraient pas fait, mais allez savoir. Et donc, dès qu'ils parlaient de questions café, de club, de chef des sports, je disais oui, en effet, mais j'y connais rien, j'avais jamais fréquenté. Et ce qui a été assez marrant, c'est que l'année suivante, en famille, avec notre première fille qui était toute petite à l'époque, on a été au vrai club Méditerranée, à côté, à côté de là où on a tourné. Et d'un seul coup, j'avais l'impression d'être l'acteur de mon film.
Un peu. C'est ça.
Parce que j'avais tout appris en formation accélérée pendant le tournage. Et là, d'un seul coup, pendant une semaine en Côte d'Ivoire, je vivais ce qu'on avait tourné un an auparavant.
Et vu de l'extérieur, quand même, ça a l'air d'une grande colo où chacun y allait de sa petite blague. Parce que vous nous l'avez dit, le Splendide, c'est vraiment une troupe extrêmement professionnelle qui déconne, mais d'une façon extrêmement professionnelle. Pourtant, apparemment, ils vous en ont fait voir aussi. C'est quoi cette histoire du faux sang d'un...
Ah oui, non, ça c'est... Mais parce que c'est... Le Splendide, c'est pim pam poum à eux tout seuls. C'est-à-dire que on tourne 6 jours, le dimanche on tourne pas. Alors moi, je pense à ce qu'on a fait dans la semaine, je travaille sur la semaine qui vient. Enfin, j'essaie de me concentrer sur mon travail en ayant l'air prime sautier. Mais enfin bon, j'étais quand même très concentré parce que j'avais pas le droit à l'erreur une deuxième fois. Et eux, ils ne pensaient qu'à faire des blagues. Et un jour, il y a eu cette blague absolument formidable. J'étais au bar en train de boire un sirop d'orgeat, que sais-je, et Michel Blanc arrive.
Vous êtes rock'n'roll, vous. Oui, non, moi rien.
Non, mais c'était le dimanche matin,
oui,
ça va.
Oui, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait.
Vous n'êtes pas dealer non plus.
Oui, bah, vous êtes matinal et rock'n'roll.
Et, et Michel Blanc est arrivé dépenaillé, le t-shirt arraché, en sang, le nez ouvert. Mais ouvert. C'est-à-dire, on voyait peut-être pas l'os encore, mais affreux. Quoi.
Explosé, quoi.
Et hors de lui. Les cheveux en bataille, du moins, les cheveux qu'il avait étaient en bataille. Et il dit, quoi, cette espèce de con, Michel, qu'est-ce qui se passe? Non, il doit dire, je lui dis un truc, il m'a pété la gueule, regarde comment je suis, je prends l'avion, je rentre ce soir, etc. Et je me disais au fond de moi-même, le film est foutu, parce que si j'arrive à l'empêcher de prendre l'avion, du genre, calme-toi, c'est pas grave, de toute façon, il est défiguré, on peut plus le filmer. Enfin, si, on peut le filmer de dos, mais de face, on peut plus. Enfin, c'était 400 coups, quoi.
Ouais. Il accusait qui de lui avoir cassé la gueule?
Ah, je sais pas, j'ai pas compris, parce qu'il était tellement énervé, il articulait pas.
D'accord.
Et puis, ça a duré un petit moment, moi j'ai essayé de le calmer, et puis à un moment, ils sont tous sortis de derrière les buissons, c'est une blague qu'il m'avait faite avec le maquilleur, qui a fait un effet spécial, qui avait fait semblant, qui avait fait un faux nez exploser, et c'était du faux sang,
le tournage en fait. Quoi.
Et on a arrêté le sirop d'orgeat pour passer à plus sérieux.
Parce que là, il avait besoin de boire un bon petit coup. Quoi. Et je voudrais qu'on revienne aussi sur une scène où Jean-Claude Duss se fait déshabiller dans la mer par Michel Creton, je pense, et Louis Rego.
Alors on enduit les dames. Allez,
arrêtez de passer. Il a oublié son slip. Bah, je m'en fous, j'ai tout mon temps, en plus ça va acheter plein.
Et alors, à ce moment-là, Jean-Claude Duss sort de l'eau et cache son énorme sexe avec un énorme...
Pas vu.
Non, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un énorme tas de varech, voilà, oui. On va dire. C'est vrai que vous avez fait venir les algues de Bretagne.
C'est-à-dire que quand vous êtes tranquillement à Paris en train d'écrire, on lui a piqué son slip, il sort de l'eau en cachant ses parties génitales avec des algues, et que vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas d'algues. Il n'y en a aucune.
Ouais.
Les algues, il faut qu'il y ait des rochers, des trucs. Enfin bon, c'est la Bretagne, quoi. Mais les Français, ça ne se passe pas en Bretagne. Et donc, on s'est dit, ben, on est dans la merde parce qu'il va pas. C'était drôle avec des algues, évidemment, parce qu'il renfile son maillot par-dessus, il retire les algues, enfin, celles qu'on connaît. Et donc, on a fait venir des algues de Bretagne dans des emballages comme les emballages de glace, là, vous voyez, isothermes. Et on a fait venir une certaine quantité d'algues qui sont arrivées par avion. Enfin, c'est quand même insensé. Et on ne pouvait pas faire 15 prises non plus parce qu'on n'avait qu'un certain contingent d'algues. Et qu'une fois qu'elles étaient parties à la mer, on ne pouvait pas les rattraper. Donc, on a dû faire 2 malheureuses prises avec les algues qu'on avait. Mais c'est quand même trop drôle. Vous écrivez, bon, il se cache avec des algues. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Ah, bah merde, il n'y a pas d'algues.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour suivre notre conversation, parce qu'il y a eu une suite évidemment aux bronzés. Il y a eu les bronzés fonds du ski et les bronzés 3 en 2006. On en parle avec vous dans un instant dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, je sais que vous riez avec nous depuis le début de ce Jour J spécial bronzé. Formidable succès en 1978 et tout de suite, justement, la troupe se remet au travail. Moi, je dis que c'était un formidable succès parce que 2,5 millions, je trouve ça déjà génial. Et puis, l'est devenu avec le temps, Patrice Lecomte. Les bronzés font du ski sort juste un an après, en 79.
Oui, pile poil un an après. Ça, c'était pas une adaptation, c'était un scénario original.
Oui, mais alors dites donc, là, personne n'a eu peur de la déception que pouvait provoquer un numéro 2. Vous êtes reparti au turbin direct.
Nous devons ça à Yves Rousseroir, le producteur, qui, pendant le tournage des Bronzés 1, nous disait on va faire la suite.
D'accord.
Parce que lui, il a des creux, il y croyait, il savait que ce serait un succès. Donc, et nous, non, mais on va faire autre chose, on a trop d'idées, on va quand même pas faire une suite, pas nous.
C'est pas facile de faire une suite, hein.
C'est facile et pas facile. Évidemment, une fois que c'est fait, ça semble facile. L'idée, c'est simplement d'aller dans un autre lieu de vacances. Donc, après le bord de mer et les palmiers, c'était la neige parce que c'est très populaire, et de reprendre les mêmes personnages. Donc on gagnait du temps, même chose. On a retrouvé les mêmes personnages, pareil, un an plus tard.
Oui, mais c'est vrai qu'on peut avoir, quand on est porté par un succès, l'angoisse de se planter sur un deuxième numéro qui vient si vite. Et non, pourtant, je dirais que c'est la même chose. C'est ça, c'est ce que j'entends là, avec tout ce que vous me dites.
On ne s'est pas pris le chou, quoi. Parce que si... Alors, juste en vitesse, quand on a fait, 20 ans, 25 ans plus tard, le numéro 3.
Alors justement,
là, on a eu un petit peu plus la pétoche. Enfin, parce que depuis le temps qu'on nous disait quand est-ce que vous refaites un bronzé, et qu'on disait non, enfin c'est surtout Splendide qui disait oui, qui disait non. Et puis quand donc on savait beaucoup plus que sur Bronzé Fondu Ski, on savait qu'avec le Ami pour la Vie, le numéro 3, qu'il y avait une attente faramineuse, enfin un truc. Donc ça a foutu une espèce de pression, et le tournage... C'est pas que le tournage m'a pas laissé un bon souvenir, mais le tournage était moins insouciant et détendu, léger, que les deux premiers films.
Il y avait plus de pression, en fait, lié à autant d'années d'arrêt, quoi.
Oui, alors, j'ose pas dire qu'on jouait gros, mais enfin, si le film avait été un bide, on aurait été un peu gros gens comme devant, quoi.
Voilà, ce qui n'a pas été le cas du tout, parce que vous avez fait plus de 10 millions d'entrées.
Oui. Pas loin de 11, alors là, pour le coup, ça commence à faire. Oui.
Là, c'est super balèze. Qu'est-ce qui a fait qu'après Les Bronzés font du ski, il n'y a pas eu de troisième...
Il y a eu un troisième qui était un peu prévu. Mm-hmm. C'était Les Bronzés, ça devait se passer aux États-Unis. Mm-hmm. Et le producteur a payé, je crois, il y a Clavier, Lhermitte et Junio qui sont partis aux États-Unis pour trouver l'inspiration. Ils sont revenus, ils n'ont rien écrit, je crois. Donc ça n'a pas eu lieu. Non, c'était pas forcément une bonne idée. En plus, c'était le gendarme à Saint-Tropez, le gendarme à New York. Enfin bon, on n'allait pas aller sur les traces. Puis on a fait d'autres trucs. Puis moi, je suis parti avec Michel Blanc pour faire non pas nos films, mais pour. C'est pas que le groupe a explosé, c'est pas ça. Mais chacun avait des petites velléités de faire des trucs de son côté, quoi.
Et chacun a plutôt réussi sa carrière aussi, de son côté. Et quel souvenir justement vous gardez de toute cette période-là? Parce que vous en parlez un petit peu avec... alors, vous nous parlez d'insouciance. C'est comme certaines périodes de notre vie, même professionnelle, qui nous apparaissent un peu comme des périodes adolescentes. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah ben oui, complètement.
Où tout à coup, on n'a pas été... On n'est pas alourdi de la gravité de l'entreprise. On est... on a parfois la nostalgie. Moi, j'ai la nostalgie de mes premières années, là, où ça n'avait pas d'importance, où je me disais, bon, de toute façon, si ça s'arrête demain, c'est pas bien grave, je l'aurais vécu.
Oui, mais
Est-ce que c'est votre adolescence cinématographique, la période des bronzés?
Ah bah, oui, de toute façon, bien sûr. Et puis, je suis devenu un grand garçon un peu plus tard, beaucoup plus tard, prochainement, sans doute.
Oui.
Mais je ne me pose pas en exemple, mais cette forme d'insouciance, de ne pas se poser trop de questions à chaque seconde, ça m'est resté quand même, vraiment. Donc on peut se gourer, on peut se planter, bien sûr, mais il faut y aller, quoi. Mon verbe préféré, c'est le verbe faire. Si on ne fait pas les trucs, on est mort. Si on navigue qu'avec des doutes, on devient une momie. Ce n'est pas possible.
Est-ce que vous faites toujours avec le Splendid d'une façon ou d'une autre, sans faire des films? Est-ce que vous êtes toujours en lien? Comment ça se passe, justement? Est-ce que quand on a vécu les bronzés, on est lié à la vie, à la mort?
C'est ami pour la vie, oui, en effet.
Ouais, c'est
nous
ça.
Avons dîné hier soir avec Thierry Lhermitte et Hélène, sa femme, et c'était très joyeux. On s'était vu peu de temps avant. Enfin, c'était. Oui, on se voit lors de. Moi, je suis allé voir Josiane Balasco au théâtre.
Ouais.
Michel Blanc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais quand j'ai refait un film avec Clavier, c'était il y a déjà quelques temps, on s'est retrouvés comme si on s'était quitté la veille. Il y a quelque chose, il y a un fil qui ne se rompt pas du tout. Et Junio, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est... Merde, je viens de dire voilà. Et je m'étais promis de ne pas dire voilà.
Ça y est, bing.
Oh là et là, alors, là. Moi, mais j'ai dit... pas dit du coup. Alors comme ça, je suis sauvé.
Oui, mais alors du coup, moi, j'ai envie de parler de votre
coup,
livre.
Voilà.
Parce que ce que l'on n'ignore pas, enfin, en tout cas ici, mais peut-être que certains ignorent, c'est que vous écrivez aussi. C'est-à-dire que vous faites des films et vous faites des livres. Et le dernier, c'est Monsieur Bouboule. C'est un roman aux éditions Artaud. Racontez-nous un petit peu.
Monsieur Bouboule est un homme très, très gros.
Ouais.
Et qui me touche infiniment. Il n'existe pas vraiment. Enfin, pas celui-là, mais il pourrait exister. Et les gens très, très gros m'ont toujours bouleversé, ému. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils se sont laissés aller à devenir si gros, à quel moment ils ont lâché la rampe, pourquoi est-ce qu'ils ne s'aiment pas davantage, est-ce qu'ils sont tristes ou joyeux. On dit toujours un bon gros, mais les très gros. Là, je parle d'un homme vraiment immense, quoi, volumineux, pas juste un homme qui a du bide. Et je me suis attaché, enfin le narrateur s'est attaché à cet homme-là parce qu'il sent une espèce de solitude étonnante, quoi, et qui existe en effet. Et j'ai voulu donc, malgré la gravité qui pointe là dans ce que je vous raconte, j'ai voulu que le film, c'est un livre, le livre soit très léger, drôle aussi, qui est de la fantaisie. Et il y en a.
Ça s'appelle donc Monsieur Bouboule et c'est aux éditions Artaud. Merci beaucoup Patrice Lecomte.
Merci Flavie. Merci
à bientôt.
Infiniment.
Ça m'a fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
Moi aussi.